Listo, güey.
Alors, ce soir, je vous avais proposé une séance de questions qui nous. Donc, on fonctionne peut-être un petit peu différemment, en ce sens que je vais prendre les questions que j'ai reçues. J'en ai fait un petit PowerPoint pour que ça me simplifie la vie et qu'on puisse les voir ensemble. Mais bien sûr, vous n'avez. C'était vos questions, vous verrez, j'ai laissé même les fautes de frappe. Et mais par contre, j'ai mis un peu d'ordre. J'en ai peut-être supprimé une ou deux. Avec l'autre groupe, je ne suis pas arrivée au bout, je vous le dis tout de suite. On va essayer de les traiter. Comme souvent pour certaines personnes, je ne vais pas forcément répondre à toutes les questions et parfois je vais répondre à côté. Donc, je fais exprès. Alors, je vous propose de commencer les questions que j'ai. Alors, attendez, il faut quand même que je me mette. Je vais vous partager l'écran, hein. Voilà, diaporama, mon présentateur. Non, c'est pas ça. Normal. Et je sais plus faire. Excusez-moi, j'étais partie et mon écran n'était pas au point. Bon, vous voyez l'écran là, ça y est? Alors, ces questions, je les ai mises un petit peu en vrac. Vous m'interrompez quand vous voulez pour qu'on voit où si on veut aller plus loin, si, etc. Alors, première question que j'ai retenue. Et pas forcément une question, mais elle m'a semblé quand même extrêmement intéressante pour notre propos. Vous avez parlé lors de la présentation de l'Eucharistie de la prière de l'offertoire. Or, celle-ci est de plus en plus rarement dite à haute et intelligible voix. À la place, on nous gratifie bien souvent d'un chant qui n'a rien à voir. Je trouve que c'est un peu un comble qu'au moment où le monde prend conscience bien difficilement que la terre n'est pas qu'une ressource à exploiter, que l'Église fasse disparaître de sa liturgie l'action de grâce pour les dons de la terre, pour notre capacité à partager, participer à leur mise en valeur et l'invitation à les partager pour vivre de la vie de Dieu, bref, sa vision d'une relation ajustée à la création. Je n'ai sûrement pas fait le tour de la profondeur de cette prière, mais déjà, avec ce que j'en perçois, elle me manque. Je vais dire bravo pour ce sens théologique et liturgique. J'ai rien à rajouter. Sinon, un tout petit détail dans nos célébrations, qui est que, en fait, globalement, on gagne 4 minutes sur ce temps-là. On devrait avoir le temps de la quête et de la procession des offrandes qui devrait être se faire avant la prière de l'offertoire. Et en général, et donc pendant ce temps de quête et de procession des offrandes, on pourrait mettre un chant ou un peu de musique, ce serait même très bien. Et en général, le prêtre en profite pour dire la célébration de l'offertoire, les prières de l'offertoire, qui ne sont pas obligatoirement dites à voix haute dans le missel romain. Et donc, c'est un peu une tendance à vous gagner 3-4 minutes sur la célébration qui amène cette pratique.
J'avais compris comme ça aussi.
Voilà. Bon, mais ça n'empêche que c'est dommage. Et alors, autre chose, dans la messe d'avant le Concile Vatican II, donc qui est qu'une soixante, qui a guère que 60 ans. Presque toute la messe était dite à voix basse par le prêtre, et ces secrètes, entre guillemets, leur manque peut-être un peu, mais ça, je ne sais pas si ce n'est pas mauvaise langue de dire ça. Je penserais plutôt pour les 4 minutes à gagner sur la célébration. Alors, bravo quand même pour la personne qui a fait cette remarque, qui dénote un réel sens liturgique et du sens du moment présent, du signe des temps que représente la grâce pour les dons de la terre, etc. Alors, une autre question, remarque, etc. Une question en relation avec vos explications sur l'hospitalité eucharistique, mais aussi plus large. En essayant de préserver les catholiques traditionalistes, voire les orthodoxes, l'Église, ou plutôt ses instances, ne craint-elle pas ou ne se rend-elle pas compte qu'elle se désintéresse du chrétien lambda, des personnes ordinaires qui auraient pu compter sur elle? En tant qu'ecclésiologue, je revendique autant pour les chrétiens dits progressistes que pour les traditionalistes le qualificatif de chrétien lambda ou ordinaire. Ce qui ne veut pas dire que j'épouse l'idée traditionnaliste, en particulier de la célébration de la messe, qui est vue comme un sacrifice, qui est très mal reliée à l'aspect du corps ecclésial du Christ, mais je pense qu'ils méritent autant de respect que les autres dans leur façon d'être chrétien, même si c'est assez loin d'être la mienne. Voilà. Donc, une petite remarque. Dans votre exposé sur la messe, vous avez peu parlé du Concile de Trente, et en particulier de l'ouverture à l'Assemblée des fidèles pour mieux participer, et de la démolition des jubés, dont il ne reste que peu d'exemples. Alors, comme vous voyez, j'ai du copier-coller, j'ai même laissé mes petites fautes d'orthographe. Je reconnais que je n'ai pas parlé du Concile de Trente. Jusque-là, je ne pensais pas que... parce que je n'y avais pas vraiment pensé en parlant sur l'Église. Après ça, ben, le cours est très dense, donc... À partir de l'année prochaine, je me poserai la question de savoir s'il faut mettre des choses dessus et je ferai des choix. Bon, j'ai mis un peu au début des questions plus faciles. Nous disons Église catholique, religion catholique ou bien Église protestante, religion protestante. Je voulais savoir s'il y a une différence entre Église et religion par rapport à Cicéron. Alors, je vais répondre. Dans les premiers siècles de l'Église, donc Cicéron, c'est plutôt un peu avant l'Église. Hein. Quand il va parler de religion, il se met dans un regard extérieur. Il ne fait pas partie, il le regarde avec un regard, je dirais, extérieur, on dirait scientifique de nos jours. Évidemment, c'est totalement anachronique pour parler de Cicéron. Alors que le terme « église » au début du christianisme est un terme qui est revendiqué par les chrétiens pour se désigner eux-mêmes. Donc, c'est plutôt un vocabulaire qui appartient à l'ensemble, au lexique de la foi, alors que religion, c'est un vocabulaire qui appartient au lexique du droit, de la réflexion philosophique, etc. Même si, à partir du XIXe siècle, le terme « église » a été récupéré dans le vocabulaire des sciences humaines, et pas dans le même sens que celui que les chrétiens donnent au terme « église ». Donc, est-ce que ça va comme réponse là? J'ai mis là trois questions qui sont qui viennent pas du même lieu. N'étaient pas dans le même mail. Alors, la question de l'écart entre foi et croyance et dogme. Croire un acte de foi, cela reste une croyance, donc possiblement erronée. En quoi nos croyances ne sont-elles pas au service de nos esprits humains qui ne peuvent percevoir plus grand que ce qu'ils connaissent? On rejoint le chrétien comme style. Des lignes, des directions, des théologiens. Bon, puis, sur le titre que j'ai donné au dernier cours, qui était « Les chrétiens face aux autres hein, » pas et les autres, mais c'est pas grand. Alors, c'est une des questions dont je vais répondre un peu à côté. Moi, ce que ça m'a évoqué, c'est la façon dont je comprends ma tâche de théologien qui, à la fois, réfléchit, une théologie assez réflexive, et à la fois essaye d'enseigner. Et du coup, ça m'a renvoyé à la question de la définition de la théologie, qui est la première définition qu'on ait, c'est celle d'Anselme de Canterbury, donc au tournant du deuxième millénaire. La théologie, c'est la foi. C'est fides quaerem intelligentiam, intelligent, quelque chose comme ça, je n'ai pas un bon latin. En gros, la foi qui cherche à être intelligente, la foi qui cherche à se rendre intelligente, à s'expliquer à elle-même. C'est la définition de la théologie. Si Anselme de Canterbury définit la théologie au tournant du deuxième millénaire, ça ne veut pas dire qu'on ait attendu 1000 ans de christianisme pour en faire. Les théologiens, les spécialistes de ce qu'est la théologie, de ce qu'on appelle l'épistémologie de la théologie, de la façon de faire de la théologie, discernent deux époques, toujours un peu premier millénaire, deuxième millénaire, on est toujours dans cette à l'emporte-pièce. Le premier millénaire, c'est une époque où on fait de la théologie dite qu'on a appelée positive. C'est le siècle de les siècles de ceux qu'on a appelés les pères de l'Église. Les pères, parce que c'était un peu les fondateurs. Les pères également, parce que la plupart d'entre eux étaient évêques, pas tous, mais beaucoup. Et donc, c'est un petit peu ces deux choses. Ces pères de l'Église avaient une théologie que je qualifierais de montante, c'est-à-dire d'ascendante. Ils partaient dans le milieu des entreprises, on dit « bottom up ». Dans le franglais actuel des entreprises. C'est-à-dire que leur théologie était une compréhension de la foi, de la pratique, de la compréhension de leur peuple, de leurs fidèles, des fidèles avec qui ils étaient, de ce qu'était la foi chrétienne. Il ne faut pas oublier que la foi chrétienne, elle démarre au lendemain de la résurrection et encore plus au jour de Pentecôte, avec une poignée d'hommes, un peu cultivés, mais sans plus, ne pas les prendre quand même pour des pauvres paysans totalement incultes, ils connaissaient les Écritures, ils avaient c'était des bons juifs, mais qui se sont retrouvés face à des événements extrêmement complexes pour eux, très incompréhensibles, une expérience compliquée. Et ils ont commencé par faire, par annoncer l'Évangile, propager cette bonne nouvelle, ce qu'ils ont ressenti comme une bonne nouvelle, et gérer au jour le jour les nouveautés, les persécutions, etc. Et cette théologie qu'on appelle positive, c'est finalement la mise par écrit d'une certaine compréhension de ce qui se passe. Je dirais que Paul, il fait de la théologie positive. Il a une communauté à Corinthe, à Rome ou à Philippe, qui a des problèmes ou des questions, et il réfléchit sur le terrain avec les outils intellectuels qu'il a. Alors Paul, c'est quelqu'un de très cultivé, qui a cette double culture grecque et hébraïque qui lui fait être un passeur entre mondes, mais il réfléchit à partir du terrain, à partir des questions du terrain. Les pères de l'Église réfléchissent et ils vont élaborer des concepts extrêmement abstraits comme le concept de Trinité, les concepts d'hypostase, de procession, ils procèdent du Père et du Fils, c'est un concept extrêmement complexe, mais ils vont le faire à partir de leur expérience de terrain, de celle de leurs confrères, et de l'expérience de leurs fidèles dont ils partagent la vie. C'est ce qu'on appelle la théologie positive du premier millénaire, qui va construire déjà un énorme corpus de théologie qui va être éventuellement synthétisé, repris, encadré dans des dogmes lors des grands conciles. Un corpus, c'est-à-dire un ensemble d'écrits. Dans cette théologie positive, on s'appuie énormément sur la prière des chrétiens et sur donc tous les rituels liturgiques. Au deuxième millénaire est apparu au Moyen Âge ce qu'on a appelé la théologie plus spéculative, qui est une théologie qui se pose des tas de questions sur Dieu, sur la Trinité, sur le péché, sur le salut, sur les grandes questions théologiques. Mais il va utiliser comme ressource, des corpus déjà écrits, essentiellement. Le Nouveau Testament, bien évidemment, et l'Ancien Testament, et également tout ce que les pères ont déposé dans le trésor des lettres chrétiennes. Et Thomas fonctionne exactement comme ça, c'est-à-dire il pose une question, qui est une question qui peut être nouvelle ou qui ne l'est pas, et il va aller puiser dans les trésors de l'Église ancienne, de l'Écriture, également un peu des philosophes, de quoi répondre à sa question. Et en puisant comme ça, il construit une théologie qui avance. Il approfondit des questions nouvelles, etc. C'est ce qu'on appelle la théologie spéculative. Je parlais de la théologie. Il me semble qu'au XXIe siècle, la tâche, c'est comme ça que moi je la comprends, la tâche des théologiens est de retrouver cette théologie de l'expérience tout en ne rejetant pas les grandes et belles synthèses spéculatives du Moyen-Âge et du début de la période moderne. Donc, je reviens à moi, ce que j'ai fait comme cours, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais quand on fait de la théologie, alors il faut que je revienne à cette question parce que là, je fais des détours et des détours. La question du théologien, c'est ça. C'est est-ce que ce qu'on raconte, c'est le fruit de nos esprits humains, ou est-ce que je suis à l'écoute de Dieu dans ce qu'on a, j'ai appelé la fonction prophétique, de comprendre ce que Dieu nous dit et d'essayer de le remettre en mots, de l'expliquer quand je fais de la théologie. Et c'est ça, cette question du rapport entre foi, entre croyance, entre dogme. C'est la question du statut de la vérité, bien sûr. Et en fait, le problème du théologien, mais c'est aussi le problème de toute l'Église, parce que le théologien, il occupe dans l'Église une fonction, il a un charisme qui est donné à l'Église, pour l'Église. Son grand enjeu, c'est de ne pas s'approprier Dieu, c'est d'ouvrir cette fenêtre du ciel pour que Dieu puisse communiquer avec l'homme, de laisser, enfin c'est Dieu qui ouvre la fenêtre, mais de ne pas la laisser, de pas pousser. Voici que je me tiens à la porte et je frappe, dit dans l'Apocalypse. Et donc le théologien, il est là pour faciliter cette circulation entre Dieu et les hommes. Et son grand enjeu, c'est de ne pas prendre la parole à la place de Dieu et de respecter Dieu. Et c'est vrai que pour cela, il a un peu des outils. Les outils qui sont en fait, ce qui va lui permettre de respecter l'altérité. Par exemple, et surtout, en premier lieu, c'est l'Écriture, les Écritures, le canon du Nouveau Testament, l'Ancien Testament, qui, en fait, sont toujours en train d'interroger le théologien et de lui rappeler qu'il ne fait pas ce qu'il veut, qu'il n'écrit pas n'importe quoi, qu'il a une fidélité à avoir à un événement initial, à quelque chose qui le précède, à une foi qu'il a reçue de ceux qui le précèdent. Et c'est donc ça qui va, entre guillemets, être la ressource pour préserver la foi d'un ensemble de croyances toutes faites par nos esprits humains. Et inutile de vous dire que on est toujours sur des lignes de crête et que rien n'est jamais acquis sur ce plan-là. Mais ce travail du théologien, d'élaboration, d'approfondissement de la foi, de compréhension de la foi, c'est un travail qui est ecclésial, qui n'est pas un travail, même si le théologien travaille souvent devant sa table un peu seul, c'est quand même un travail profondément ecclésial, avec de l'échange. Et alors là, maintenant, je parle pour nous au pluriel, parce que je fais partie des gens qui portent le CIF. C'est le projet qu'on a au CIF, c'est finalement de fournir à nos étudiants des ressources et des savoir-faire pour être eux-mêmes capables d'être théologiens. Parce que pour que une théologie soit le fruit de la foi des fidèles, il faut qu'il y ait beaucoup de fidèles théologiens. Et donc, notre proposition, c'est à la fois de faire un cours où on essaye de donner notre propre perception de la foi de l'Église et à la fois de vous faire travailler un peu la méthode théologique avec cette idée qu'il y a un texte qui représente l'altérité, qui représente le fait que on ne part pas de nous-mêmes, mais on part de ce qui est donné pour travailler et avancer dans la réflexion, dans l'intelligence de la foi, et si possible, en Église. Donc, c'est un petit peu ce projet qu'on essaye de mettre en œuvre aussi, que j'essaye de mettre en œuvre, et j'espère que vous y avez goûté. Enfin, nous, on a toujours envie, même si on ne ressent pas une obligation de résultat, on a quand même envie que ce qui nous fasse notre passion soit goûté par les autres, ce qui fait notre passion. Mais c'est pour ça que il y a des règles pour sortir, pour essayer de ne pas rester coincé dans nos esprits humains. Alors, c'est pour ça que j'ai mis là, je vais vous donner la parole, Christophe, hein, je finis juste là. Le cours sur les chrétiens face à ces autres, c'est en fait que moi, j'ai réfléchi en tant que théologien sur les questions que me pose l'autre. Alors, Christophe, j'arrête le partage pour qu'on se voit un peu. Christophe, donc.
J'ai une question par rapport à. Donc, vous avez parlé de devenir théologien, ça c'est très intéressant, mais je voudrais revenir encore sur l'Église.
Oui.
Alors, est-ce que je peux poser la question que je n'ai pas envoyée ou je perturbe ?
Ah, bien sûr qu'on peut.
D'accord. Parce que j'ai vu qu'à l'époque, au début, il y avait des personnes qui s'appelaient questionnaires, c'est-à-dire c'était des gens qui posaient des questions aux théologiens pour faire avancer les choses. J'ai vu ça dans un livre, donc j'aime bien ces rôles-là. D'accord. Non, mais blague à part.
Caroline se sent visée.
Non, c'est vraiment dans un livre très sérieux d'un théologien. Mais la question, c'est... Si on se met dans une situation au départ, d'accord, parce qu'en fait, je me suis fait la réflexion, je viens de me faire la réflexion, imaginons au début, vous dites, ils ne sont pas nombreux. Ben, ils ne sont vraiment pas nombreux. Il n'y a pas d'évangile.
Il n'y a pas d'évangile.
Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de règles. Mmh. Et puis, il y a une transmission orale, etc. Donc, la question que ça me pose, c'est... Et la foi se propage, enfin, l'Église se propage parce que, mais on dit, bon, Paul a créé une Église, mais c'est facile à dire, Paul a créé une Église. Si moi je vais dans la Creuse, je ne vais pas créer une Église. Je veux dire, ça ne se fait pas comme ça. Donc je veux dire.
Je peux conseiller quelque chose à Christophe.
Oui.
Il y a un cycle biblique que je viens de terminer et qui s'appelle les Actes des Apôtres. Et ça, c'est super pour voir les débuts de l'Église.
D'accord.
Je vais en parler tout à l'heure, hein, des actes, parce que j'ai une question sur les actes.
Mais ma question, c'était donc, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait en sorte que le nombre des chrétiens s'agrandit? Est-ce que c'est. Parce que c'est pas. Pour moi, c'est pas tout à fait clair. Qu'est-ce qui fait que les gens qui sont un peu. Disons, ils sont un peu dans la même situation que certaines personnes aujourd'hui en France, quoi.
Les actes des apôtres.
Non, mais qu'est-ce qui fait que l'Église grandit? Comment on analyse ça? Parce qu'on va dire c'est l'Esprit Saint, mais OK, mais... Est-ce qu'il y a une explication de cette propagation dans ce monde qui est complètement instable et marqué par différents pluralismes religieux, etc. Parce que c'est une question qui nous concerne aujourd'hui un peu aussi aujourd'hui. Hein.
À part vous dire l'Esprit Saint, une explication rationnelle, il n'y en a pas. Après, ce qu'on peut imaginer, mais on le voit, prenez dans les Actes des Apôtres, je vais revoir, Étienne. Étienne, il passe, il parle, il fascine les gens. Et pourquoi il fascine les gens? Parce que ce dont il parle, ben c'est sa vie. Quand Paul dit « Pour moi, vivre, c'est le Christ », c'est bien ce que les gens ressentent et avec suffisamment de foi pour que ce Christ qui est sa vie soit désirable, je pense.
Donc si c'est ça, est-ce que ce n'est pas une leçon pour nous qu'il faut faire la même chose ?
Eh oui, mais peut-être nous sommes timides, peut-être nous n'avons pas autant reçu de l'Esprit Saint pour montrer que celui que notre cœur aime est désirable. Peut-être, je ne sais pas.
Et... Ce que je voulais dire, c'est que l'Esprit Saint, il n'a pas été plus actif à l'époque qu'aujourd'hui. Il est toujours aussi actif. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui. Moi, je me pose cette question parce que pour moi, c'est la question comment nous devons. Quel est notre rôle, vous voyez, pour l'Église aujourd'hui, parce qu'on est un peu dans une situation similaire, parce que dans une situation où l'Église, on convertit les gens parce que l'Église est une institution supportée par l'État, ça j'ai un petit, c'est pas ça qui m'intéresse, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on est dans une situation minoritaire, où on n'a pas de moyens, tout semble complètement hostile à nous, et puis finalement, ça se développe. Pourquoi ça ne peut pas se développer aujourd'hui? C'est ça ma question.
Il faut prier l'Esprit de nous donner la force et une force d'y croire. C'est très complexe parce qu'il y a, dans les autres questions, il y a est-ce que la conversion, c'est le rôle du catéchuménat, c'est le rôle de l'annonce, c'est de convertir les gens au Christ. Et on est dans une société qui, contrairement à d'autres époques, respecte beaucoup la liberté de chacun. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de catéchumènes qui se soient sentis forcer la main. Et en fait, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la séduction. Aller rechercher celui que mon cœur aime, on est dans le cantique des cantiques, on est dans... le pape François, il dit, mais si vraiment on est plein de cet amour, quel est l'amoureux qui ne veut pas parler de son amour, de celui qui fait sa vie? Caroline, vous n'avez pas votre micro, hein. Je ne sais pas si vous.
Peut-être aussi, il y a peu d'évangélisateurs. On évangélise peu, on n'a plus la force, on n'a plus le courage. C'est ça que l'Église est en train de freiner.
Il y avait un ancien professeur du CIF, Joseph Piron, qui disait « Pas de prosélytisme, il faut témoigner, il faut témoigner. »
Ça me semble assez bien dit.
Moi, il y a une remarque par rapport à ça. Je m'exclamais « Tous les amoureux n'ont pas avant à dire qu'ils sont amoureux. » Et je crois que cette comparaison, cette phrase, moi, par expérience et par ce que j'ai vu, et des fois, il y a des hontes. Et moi, par exemple, c'est ce que je ressens. Il y a une part en moi, quand je vois comment le catholicisme est vu et perçu en France, dans mon environnement proche, ça demande d'assumer quelque chose. C'est presque un coming out d'oser dire que je suis catholique. Oui. C'est pas anodin de placer ça dans un monde de non-croyants, plutôt anti-religion. Donc, c'est ça qui fait dire que même si Dieu, je l'aime et tout ça, témoigner parfois... Quand je témoigne, ça passe bien. Mais si je parle de Dieu ou que je suis catholique, c'est quelque chose qui... Voilà, donc c'est là où...
Oui.
moi, ça peut être limité, cette phrase me...
Alors, je vous rappelle quand même que dans les Actes des Apôtres, vous avez ce discours à Athènes où Paul fait un beau discours pour essayer de convaincre les philosophes athéniens et qui lui répondent « bon, t'écouteras un autre jour hein. ». Donc, ça ne marche pas toujours du premier coup. Et d'ailleurs, on ne voit pas d'église implantée à Athènes avant un bon moment dans l'histoire de l'Église. Donc, c'est l'échec Athènes.
Mais est-ce qu'il n'y a pas donc, parce que dans cette situation, au départ, je reviens encore à ça, est-ce qu'il n'y a pas, il y a quand même le message du Christ, c'est un message révolutionnaire pour l'époque, d'accord, qui traverse les couches sociales, un esclave et un maître, et ils sont égaux dans cette... Donc, il y a une expérience de fraternité, une expérience de communion, une expérience de libération. Est-ce que l'Église, ça ne passe pas aussi par la façon dont nous nous comportons les uns vis-à-vis des autres? Parce que moi je ne vois pas où est-ce qu'on doit avoir honte de quoi que ce soit. Moi, je suis plutôt, disons, fier de ces trésors. Donc, c'est très difficile de créer une fraternité entre nous. Je veux dire, avant d'évangéliser, essayons de fraterniser entre nous. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais j'ai l'impression qu'on se crée des freins qu'on ne devrait pas se créer. Mais c'est juste une opinion, ce n'est pas théologique, c'est moi.
Je vais en profiter, là, pour... Alors, qu'est-ce qu'elle disait, Caroline? Voilà. Je vais en profiter pour vous... parler d'une question que j'ai eue sur les actes. Alors, du coup, je ne suis pas dans l'ordre de mon PowerPoint, mais ce n'est pas grave. Je la cherche. Hein. Voilà. Je suis interpellée parce que vous avez dit à propos de la communauté des premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres. Si je vous ai bien compris, ce petit texte que l'on prend toujours en modèle de ce que l'on devait vivre et que l'on n'arrive pas à mettre en œuvre serait en réalité ce qu'il ne faut pas faire. Alors là, je ne sais pas si dans l'esprit de la personne qui a posé la question, c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est rêver d'une communauté idéale ou c'est ce qui est décrit dans les actes.
C'était de rêver d'une communauté idéale, j'avais cru comprendre.
Voilà, moi c'est ce que. Voilà. Et du coup, et la personne me dit, mais en relisant le texte et sa suite, le raisonnement, même par l'expérience, ne m'apparaît pas évident. Pourtant, ce serait une bonne nouvelle. Alors, pouvez-vous décrypter un peu mieux l'enchaînement des textes? Alors, j'ai ma Bible sous les yeux et je vous rappelle ce que Claire a dû voir. C'est le cycle CIF sur les actes que vous avez suivi, Claire? Ah, vous n'avez pas votre micro là.
Oui, c'est le cycle qui vient de se terminer là. Et moi, ça, c'était vraiment une. Oui, du CIF, c'est vraiment été une révélation là, les actes.
Ah, c'est extraordinaire les actes. Hein.
Ouais. Et puis les travailler comme ils travaillent. C'est vraiment bien quoi. C'est vraiment bien. Et c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit une communauté idéale, hein, ils s'en bavent hein, tous. Ils rament, mais il y a toujours 3-4 personnes, il ne reste pas grand monde hein, quand ils ont fini la réunion.
C'est bien. Et donc, en fait, ce qu'on lit souvent, ce qu'on évoque trop souvent dans nos réunions d'église, ce sont ce qu'on appelle dans les actes les sommaires. Parce que c'est une espèce de généralité qui interrompt la narration, en gros. Alors là, je suis au chapitre 4, au verset 32. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Au contraire, ils mettaient tout en commun. Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur. Une grande grâce était à l'œuvre parmi eux tous. Nul parmi eux n'était indigent. En effet, ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons les vendaient, apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés et les déposaient aux pieds des apôtres. Et chacun en recevait une part selon ses besoins. Alors là, on a une communauté idéale. Ils mettent tout en commun. Les versets d'après, on vous dit qu'un certain Joseph, il y a beaucoup, beaucoup de Joseph dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, a vendu un champ et qu'il a donné les sous aux apôtres. Mais tout de suite après, au début du chapitre 5, un homme du nom d'Ananias vendit une propriété d'accord avec Saphira, sa femme. Puis, de connivence avec elle, il retint une partie du prix et apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Donc, après, bon, c'est le drame absolu. Satan leur tombe dessus. C'est bon. Le châtiment cosmique. Bon, on est dans de la théologie narrative. Mais ce qu'il faut voir, c'est que tout de suite après, une description idéale. Donc, quelque part, c'est déjà le royaume de Dieu qu'on a essayé de faire sur la terre. Ben, on s'aperçoit que ça foire. Et ce qu'il y a d'assez intéressant dans les actes, c'est que c'est après cet épisode d'Ananias et Saphira qu'on va passer du terme la communauté, le groupe, les chrétiens, au terme église. On va se démarquer de l'idéal que constitue un modèle absolu de mise en commun des biens, etc., pour rentrer dans le terrain du réel. Et après, on va nous décrire Pierre circulant dans des maisons en Samarie, on va nous décrire l'église d'Antioche qui se réunit et qui étudie la Bible, on va nous décrire Paul qui va circuler dans des synagogues en Asie mineure et puis après qui va passer en Europe, qui va être reçu chez une femme qui s'appelle Lydie, etc. On va nous décrire des situations variées, des églises qui se réunissent des fois dans des belles synagogues comme à Antioche, des fois chez des gens. On va nous décrire Paul qui se déplace en Samarie, qui va à Joppé, puis à Lydda, et puis il y a plein d'endroits parce qu'en fait il est poursuivi, et ben, on ne dit pas que c'est pour ça, mais on va sortir du rêve d'un royaume accompli. Donc c'est ce texte, pour moi, il est eschatologique. Et donc, quand on lit les Actes des Apôtres, comme Claire le disait, c'est toujours, on tombe et on recommence. C'est toujours Paul qui se fait, qui est prié de quitter la ville où il a annoncé l'Évangile, parce qu'on ne le supporte plus. C'est toujours, c'est les philosophes d'Athènes qui lui disent, bon, écoute, tu as bien causé, va voir ailleurs si on y est, etc. Donc, quand même, annoncer Jésus-Christ, ce n'est pas acquis d'avance.
Excusez-moi, oui? si je comprends bien votre explication-là, en fait, je me rends compte qu'il y avait une présentation avant de la communauté idéale dans les actes.
Oui, oui, il y en a trois.
Je me suis un peu embrouillée en relisant, je crois.
Oui, il y en a trois.
Mais si ouais. Je vous comprends bien, ça reste donc quelque chose d'eschatologie, donc quelque chose à aspirer.
Oui, absolument.
Pas du tout. Donc, moi, j'avais compris quand vous nous aviez parlé que c'était un rêve dont il fallait se dépouiller, quoi. Pour vivre la réalité de l'Église. Et...
ce qu'il faut se dépouiller, c'est du rêve de créer nous-mêmes le royaume. Vous comprenez ce que je veux dire? Plus que de cesser d'aspirer au royaume. Mais les
communistes sont cassés la figure. Hein.
Oui, ils n'avaient pas de support spirituel très solide. Ils étaient athées militants.
Oui, mais quand même, c'était persuadé de leur faire le paradis sur terre.
Absolument. Donc, ça a pas très bien marché.
Donc, je te dis cet enchaînement de textes, c'est que ce n'est pas la force du poignet, mais que c'est quand même arrivé.
Voilà, et que c'est un don de Dieu à accueillir. Alors, quelque part,
j'avais pas compris.
Quelque part, les communautés monastiques, par exemple, c'est un signe eschatologique dans l'Église, d'être des communautés de louanges et de prières et de mise en commun des biens. Alors, ça ne veut pas dire, moi, je ne suis pas, j'ai pas beaucoup d'expérience de la vie monastique, ça ne veut pas dire que cette vie monastique soit facile à vivre et qu'il n'y ait pas de heurts, de choses mauvaises au sein de la vie monastique, mais c'est un signe eschatologique au cœur du monde d'avoir des monastères qui essaient de vivre cette radicalité du royaume comme ils ou elles peuvent, mais avec le maximum de présence et d'accueil du don de Dieu. Après, je ne dis pas que ça marche toujours. Hein.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que le fait qu'ils ont mis tout en commun, c'est un récit, ce n'est pas une réalité. Enfin, on ne sait pas, mais pourquoi ça ne pourrait pas être une réalité? Non, mais je veux dire...
Là, je vais essayer de faire un peu plus un travail de sciences humaines, d'histoire. Vous trouverez ces questions, si vous voulez faire de l'histoire, dans Marie-Françoise Basselez, qui est une historienne de l'Église. Donc, comment notre monde est devenu chrétien, comment les chrétiens sont devenus catholiques, et surtout l'Église des Maisonnées, je crois que ça s'appelle au début. Alors, mais ce qu'on voit quand on fait cette étude plus historique, c'est que les premiers chrétiens, ils sont pragmatiques, hein, mais ils annoncent Jésus-Christ, mais ils sont très divisés sur le type social, sur le type que doit être l'Église. Alors, ils sont divisés sur la question de savoir s'il faut être juif pour être chrétien. Vous avez cet épisode du concile de ce qu'on appelle le concile de Jérusalem qui est rapporté dans les Actes. Alors, une fois de plus, c'est une histoire qui est racontée plusieurs décennies après et qui est racontée de façon positive et théologique. Hein. Mais vous avez quand même une question qui est grave. Est-ce qu'on reste juif ou est-ce qu'on devient... On peut sauter la case judaïsme pour être chrétien. Donc ça, c'est une question grave. Mais vous avez aussi, et on le sent tout au long des Actes, même si c'est beaucoup moins explicite, la question qui est posée, qui est est-ce qu'on doit vivre une vie radicale, un peu comme les milieux baptistes qui s'étaient retirés dans le désert de Judée et qui existaient au temps de Jésus, qui étaient des milieux plutôt juifs, hein, les Esséniens par exemple, qui n'étaient pas des chrétiens, mais il y avait cette image de communauté radicale qui vivait de peu, dans une certaine ascèse et sobriété, pour être tout entier en Dieu et avec un partage intégral des biens, etc. Est-ce qu'il fallait cet engagement radical ou est-ce qu'au contraire, il fallait être beaucoup plus dans le compromis pour vivre au cœur du monde.
Ce que tu vis, là.
Vous avez ceci, ça traverse toutes les questions du Nouveau Testament. Dans l'entretien avec Nicodème, je reste dans l'évangile de Jean là-dedans, que je vous raconte. Hein. Dans l'entretien avec Nicodème, Jésus dit « Je ne suis pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. » Donc, il a une vision du monde qu'il aime, qu'il faut regarder. Alors qu'au contraire, à la fin, dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale, alors c'est où ? Excusez-moi, c'est au chapitre 16 ou 17. 17. Voilà, il dit je te prie pour eux, mais je te prie pour eux, mais je ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux que tu m'as donnés, ils sont à toi. Je ne suis plus dans le monde, eux restent dans le monde. Ce monde qui est un lieu du malheur, pas du malheur, du mal, de l'expression du mal, du Satan. Et donc, en gros, les premiers chrétiens, en plus d'avoir à évangéliser, ils ont des tas de questions théologiques graves. Et cette question, finalement, théologique, est-ce que ce monde, c'est le monde créé par Dieu, dans lequel Dieu a mis son amour, et qu'il aime et qu'il veut sauver, malgré le mal et le péché? Ou est-ce que le monde, c'est le lieu où s'exprime le mal, et nous autres chrétiens, nous devons créer des conditions telles que nous ne soyons pas en contact avec ce monde qui est le monde du mal. Et c'est une question théologique qui traverse tout le Nouveau Testament et qui traverse après l'histoire des chrétiens et qui nous traverse encore. Est-ce que nous devons être une église petite, minoritaire, qui fait ce qu'elle peut et qui fait des compromis avec le monde et qui donc accepte que le monde n'est pas parfait et qu'on vit dans un monde qui est politiquement pas toujours ce qu'on appelle chrétien avec des valeurs chrétiennes, ou est-ce que on doit être le petit reste de ceux qui sont purs et qui vivent le christianisme, un christianisme plus intégral. Dans, il y a un certain nombre d'églises protestantes. Bon, les Amish aux États-Unis sont un peu caricaturales de ça, mais qui essayent de vivre de ça. Et vous voyez ce que je veux dire?
Je me permets de prendre la parole. Il y a un texte de Dietrich Bonhoeffer qui parle justement de ça et qui dit « On ne saurait faire le compte des communautés chrétiennes qui ont fait faillite pour avoir vécu d'une image chimérique de l'Église. Certes, il est inévitable qu'un chrétien sérieux apporte avec lui la première fois qu'il est introduit dans la vie de la communauté un idéal très précis de ce qu'elle doit être et essayer de réaliser. Mais c'est une grâce de Dieu que ce genre de rêves doivent sans cesse être brisés. » C'est un texte un peu dur, hein. Pour que Dieu puisse nous faire connaître la communauté chrétienne authentique, il faut même que nous soyons déçus, déçus par les autres, déçus par nous-mêmes. Dans sa grâce, Dieu ne nous permet pas de vivre, ne serait-ce que quelques semaines, dans l'église de nos rêves, dans cette atmosphère d'expérience bienfaisante et d'exaltation pieuse qui nous enivre. Car Dieu n'est pas un Dieu d'émotions sentimentales, mais un Dieu de vérité. C'est pourquoi la seule communauté qui ne craint pas la déception, qu'inévitablement elle aura, en prenant conscience de ses tares, pourra commencer d'être telle que Dieu la veut et saisir par la foi la promesse qui lui est faite. Bon, je ne dis pas là. Il vaut mieux pour l'ensemble des croyants et pour le croyant lui-même que cette déception se produise le plus tôt possible. La vraie communauté chrétienne est à ce prix.
Et pense qu'on peut laisser la parole au pasteur Bonnefer. C'est extrait de quel ouvrage?
Je ne sais pas, je l'ai entendu sur les radios chrétiennes. C'est un évêque qui l'a donné à Lourdes, à Véronique Marcon. Je ne sais pas
Vous ne savez pas de quel ouvrage? Ok.
Non.
Est-ce que vous voyez qui est le pasteur Bonnefer?
Oui, c'est ça. Oui,
Et donc, une réalité finalement, à la fois du salut de Dieu, mais du monde qui est encore imprégné du mal.
Oui, mais c'est la déception, mais il faut quand même surmonter la déception. Ce que je veux dire, c'est que l'évangile d'aujourd'hui, si je prends l'évangile d'aujourd'hui, pour moi, elle parle de la cohérence, de l'intégrité, c'est-à-dire, parce que nous, on n'est pas, je veux dire, nous n'arrivons pas dans l'Église qui est au premier jour. On a les évangiles, les Écritures, la tradition, théologie, tout ce que vous nous enseignez depuis 2 ans.
Ouais.
Donc, on ne part pas des zéros, on n'est pas des… Et donc, pour moi, les premiers pas… J'attends pas une église idéale, loin de là, ça serait grave d'avoir une église idéale parce que ça serait louche. Mais quand même, ce qui est demandé à moi, et cet évangile me fait penser à ça, c'est que je sois cohérent à ce que je prétends ou à ce que je proclame. C'est-à-dire, il faut pas avoir la bouche pleine d'amour, de tous ces mots fraternels. Et si je les fais pas dans les actes. Et donc, j'ai pas besoin pour ça, on n'a pas besoin d'un monde idéal. Hein. Mmh. On peut faire ça dans le monde non idéal, c'est-à-dire être cohérent à ce qu'on croit, avec ce qu'on croit dans nos actes. Mmh. Pourquoi on ne le dit pas aux chrétiens? Enfin, je veux dire, dans la vie même, en dehors de l'Église, si je vois une personne qui est cohérente à ce qu'elle dit, j'ai la confiance dans cette personne. Donc, nous, en tant que communauté, si on se comporte conformément à ce qu'on professe, c'est déjà une forme d'évangélisation. Où est-ce que je me trompe, là?
Je ne pense pas que vous vous trompiez, mais c'est plus facile à dire qu'à faire.
Ah ben oui, mais bon, ça, c'est un chemin.
Ouais.
Parce que si on commence à évangéliser et sans faire nous-mêmes être de témoins, c'est compliqué. Hein?
Ouais.
Je
vous propose de continuer pour qu'on aborde un peu les questions que j'ai reçues. Alors, attendez, je cherche dans mes questions laquelle on va prendre. Alors, je vais prendre ça. C'est une question sur la question du dialogue des autres religions, etc. Donc, je continue. Je vous partage l'écran pour mettre la question. Concernant le monde pluriel et diverses religions, la plupart des théologies présentées sont centrées sur le Christ et la foi chrétienne, ce qui fait sens dans un cours dédié à la théologie chrétienne. Merci. Cependant, cela me donne la sensation que ces réflexions partent du principe que la croyance en Christ, au royaume de Dieu, en la vie éternelle, au connaître de Jésus et de tous, est la forme de vérité unique. Si les autres non-chrétiens n'y adhèrent pas, c'est souvent présenté comme de l'ignorance, en ajoutant dans l'ouverture, s'ils œuvrent selon la loi naturelle de Dieu sans connaissance de Dieu, ils seront dans le royaume aussi. Alors, une question, existe-t-il des théologiens chrétiens qui ont exploré une approche décentrée, se basant sur l'hypothèse possible que la croyance au royaume sous la forme présentée par l'Église n'est peut-être pas la vérité, et la personne met un V majuscule. Tentant alors, à partir de cette hypothèse d'un autrement possible, d'intégrer le christianisme, le Christ, à travers d'autres visions religieuses et ou sacrées, de ce que serait le dernier jour de l'humanité. Alors, à cette question, je réponds oui, il y a des gens qui ont cherché. C'est une approche théologique très spécialisée qui nécessite des compétences que je n'ai pas, parce que on peut pas. La théologie reste quand même une matière qui a des disciplines différentes, avec des spécialités différentes, et que je n'ai pas les capacités de me tenir au courant de tout ce qui se fait, etc. C'est trop lourd. Mais ça existe. Alors, je peux vous donner des noms. Il y a le dominicain français Claude Geffray qui a travaillé là-dessus, G-E-2-F-R-E. Il y a un Indien qui s'appelle Raymond Panikkar, P-A-N-I-2-K-A-R, qui a travaillé sur ces questions-là. Il y en a d'autres, je ne les connais pas bien. C'est des théologies très, très difficiles. Et j'avoue que bon, j'ai un peu essayé de lire, je n'ai pas bien compris, il faut rentrer dedans. Il y a d'autres personnes qui se sont plutôt attachées à dialoguer avec d'autres sur des grandes questions. La mort, la vie, le sens de la souffrance, le corps, l'importance des rites, etc. Souvent, ces gens-là, qui sont dans le dialogue interreligieux, à la fois, c'est un état d'esprit de dialoguer avec les autres. Donc, c'est un état d'esprit, c'est une position spirituelle, c'est un état d'esprit spirituel et une position théologique aussi. Vous avez Joseph Como qui est l'auteur du dernier texte que vous avez étudié. C'est quelqu'un qui est spécialiste du dialogue avec le judaïsme. Vous avez un dominicain qui est très connu qui s'appelle Adrien Candiar, qui travaille beaucoup avec l'islam, sur les questions de l'islam. C'est une forme de dialogue interreligieux. Vous avez autre chose qui se fait surtout avec les religions qui ont une forte puissance spirituelle, qui sont des gens comme Monchanin, c'est des générations d'avant ça, qui s'immergent dans l'expérience mystique au sein de l'hindouisme ou du bouddhisme. Et ça, c'est quelque chose que vous voyez encore actuellement, qui restent des gens chrétiens, mais qui vivent leur christianisme au milieu de l'expérience mystique autre, par exemple du bouddhisme ou de l'hindouisme. Donc, il y a un certain nombre de chrétiens qui sont partis en Inde sur ce schéma, ou dans des pays bouddhistes. Donc, ça existe, c'est quelque chose qui est très loin de l'ecclésiologie, en fait, comme comme type de support à la fois spirituel et intellectuel. Donc, je ne les ai pas, ces supports. Je ne les maîtrise pas. Je ne les connais pas bien. Une autre question. Oui. Une question beaucoup plus large. Quel est le positionnement de l'Église quant à la multiplicité de l'univers, la petitesse de notre humanité au cœur de l'univers? Cela semble rejoindre les questions de la Genèse et amène à une question triviale: pourquoi Dieu a créé l'homme? Et on propose une réponse quand même, pas un mot. Alors, peut-être que cette question ne rentre pas dans le champ de votre cours sur l'Église, et que c'est une autre thématique qui sera ou a déjà été abordée au CIF. Alors, qu'est-ce que je vais dire ? Effectivement, c'est pas du ressort du cours sur l'Église, donc il faut bien qu'on fasse des tri. C'est plus du ressort du cours dit d'anthropologie chrétienne que vous avez eu l'année dernière au dernier trimestre. Après, un cours de 9 ou 10 séances ne peut pas faire le tour de la question. Donc, je ne vais pas... Mais ce qui m'intéresse dans cette question, c'est que je vous ai parlé des travaux écrits de fin de parcours. Et c'est typiquement le type de question que vous pouvez essayer de traiter. Y en a plein d'autres, hein, mais voilà, j'ai une question théologique qui a été abordée ou pas aussi, mais en tout cas, je reste sur ma faim. Et je vais passer un petit peu de temps, quelques mois pendant mes temps libres, pour lire, approfondir une question et mettre en œuvre cette méthode théologique qui consiste à avoir ma question et à interroger différentes sources, les Écritures, quelques auteurs, les mettre en regard les uns des autres, pour que la réponse soit à la fois une réponse à ma question, que j'ai mené mon travail, mais que j'ai essayé, dans la mesure du possible, de faire cet exercice dans le respect de l'altérité de Dieu. Vous voyez ? Donc, c'est une question qui pourrait donner lieu à travail écrit de fin de parcours. Après, je ne veux pas que la personne qui a posé cette question se sente enfermée dans cette question, si elle en a d'autres. Voilà. Tout autre sujet. La réaction des fidèles au scandale. Le marqueur du cléricalisme dont on ne fait que mettre à jour les effets délétères. Pouvez-vous revenir sur les questions suivantes ? La femme, la prise en compte des évolutions concernant la famille, l'homosexualité, les couples divorcés. J'avoue être très désarmée, je suis un peu dans la même situation que vous. D'abord, pour ce que je vous ai dit, je dirais beaucoup sur la question de la femme. On a quand même un grand vaisseau de deux millénaires. La question de la place de la femme dans la société, c'est une question qui a 60 ans. Donc, c'est l'Église est lente. Je reviens à ce que j'ai dit souvent. Au Concile Vatican II, donc au début des années 60 du XXe siècle, si la question d'ordonner des hommes mariés s'est posée, la question d'ordonner des femmes n'a pas été posée. Mais dans une société où il n'y avait pas de femmes préfets, il n'y avait pas de femmes qui rentraient à Polytechnique. Il y avait, au début des années 60, moins de 10 magistrates dans les tribunaux français. Pourquoi auriez-vous voulu que l'Église en fasse plus que la société dans laquelle elle était ?
Oui, mais attendez, la France, ce n'est pas l'Église catholique. Là, je veux dire, l'Église catholique, ce n'est pas que la France, c'est le monde entier.
Oui, mais je pense que sur cette question-là, on était plutôt dans ce qui était avancé. Sans être... C'est vrai qu'on est un des pays où les femmes ont eu le droit de vote assez tard. Mais la France n'était pas le seul pays, mais enfin, c'était pas beaucoup mieux aux États-Unis ou en Allemagne, qui ont été des pays très moteurs dans ce qui a été décidé au Concile et écrit. Je ferai aussi une remarque dont je ne sais pas jusqu'où elle va. La question de est-ce que c'est la question de la femme dans l'Église ou du non-clair ? En ce sens que je ne suis pas certaine que les laïcs hommes soient mieux traités que les femmes dans l'Église. Je ne sais pas, je n'ai pas l'expérience d'être dans la peau d'un homme laïc, mais je ne suis pas certaine qu'il soit mieux traité. Donc, évidemment, comme le fait d'être clair n'est pas ouvert aux femmes, ça entraîne que les femmes sont absentes, quoi. Alors, les évolutions concernant la famille. Et on me met homosexualité, couple divorcé. Alors, je pense que ce sont des sujets où quand l'Église fait et ne parle pas, ça se passe mieux. Que je m'explique. Si, j'imagine que débarque dans une paroisse un couple de divorcés remariés qui prennent des responsabilités, qui accèdent à la communion et qui n'affichent pas partout, vous savez, on est divorcé, remarié. Sauf à être dans le cas de gens qui sont à l'affût du scandale, les choses se passeront bien. Si on arrive à ce que le responsable de la paroisse, celui qui a une charge de curé, soit obligé de s'apercevoir et qu'il soit public, qu'il sait qu'il donne la communion à quelqu'un qui n'est pas entre guillemets dans les clous, ça devient un scandale. Et donc, je pense à une expérience que j'ai eue enfant, j'habitais dans une toute petite ville où vivait un ménage de deux femmes qui vivaient en couple, faut dire les choses, mais où tout le monde avait décidé que c'était deux vieilles filles qui se soutenaient matériellement, ce qui leur permettait d'être parfaitement pratiquantes, parce qu'on n'allait pas rentrer dans leur intimité. Et non seulement elles étaient pratiquantes, mais elles vivaient comme un ménage des années 60, c'est-à-dire qu'il y en avait une des deux qui était le chef de famille, qui gagnait sa vie pour les deux. Et l'autre faisait comme dans un ménage des années 60 d'une famille pratiquante avec une certaine aisance, c'est-à-dire que l'autre, elle faisait le catéchisme, elle s'occupait de l'église, etc. Donc, il y avait une capacité à cette époque à fermer les yeux, qui est nécessaire pour que l'Église avance. Parce que si on ne peut pas avancer à coup de scandale, en scandalisant les uns ou les autres. Si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Voilà. Voilà. Donc, sur ce point-là, mais sur plein d'autres, il est important de faire et de ne pas trop dire. Mais bon, c'est peut-être plus facile
C'est de l'hypocrisie, c'est de l'hypocrisie.
Est-ce que c'est de l'hypocrisie ou est-ce que c'est de ne pas rentrer dans l'intimité des gens?
Non, c'est pas rentrer dans l'intimité. C'est de l'hypocrisie. Il paraît, enfin, je ne sais pas, il y a un livre qui est sorti il y a 4 ans en arrière, Sodoma.
Oui.
80% du Vatican est homosexuel. Voilà.
Ah oui, mais là, je suis dans une autre question.
Ah oui, non, mais après, le pape dit les prêtres, les homosexuels n'ont pas le droit d'être prêtres. Ben ouais, il aurait fallu qu'il voit avant. Hein.
Oui. Mais là, je pense qu'on est dans une question beaucoup plus grande, assez différente de celle de la prise en compte de l'homosexualité dans l'Église. Et je dirais que ce qui était l'intransigeance d'une partie de l'Église, qui était portée essentiellement par des laïcs d'ailleurs, au moment du mariage pour tous, sur la question de l'homosexualité, a fait reculer la pastorale française qui était dans une tendance à un accueil des ménages homosexuels stables et à un encouragement à la stabilité de façon dramatique. Alors que la pastorale était plutôt en train de s'orienter vers ça. Et l'intransigeance d'une partie de la société chrétienne qui a été menée par des laïcs, hein, n'oubliez pas, a fait énormément reculer cette pastorale. Ce qui est dommage. Donc, il y a des choses sur lesquelles il est urgent d'expérimenter, de faire et de ne pas trop parler.
C'est quand même Benoît XVI qui a dit que les homosexuels n'avaient pas le droit d'être prêtres.
Oui, alors je pense que c'était Benoît XVI, n'oublions pas, hein, Benoît XVI, il se trouve confronté à ce que son prédécesseur a voulu nier et n'a pas voulu voir, qui est la catastrophe des abus dans l'Église. Et à ce moment-là, il s'imagine, avec les outils intellectuels et sociaux qu'il a, n'oublions pas que le brave Benoît XVI, il est spécialiste des pères de l'Église. Hein. Il a passé sa vie, il n'a pas d'expérience de pasteur, il n'a pas d'expérience autre que ses livres et des premiers siècles de l'Église. Et donc, là, je pense qu'il s'est imaginé que ça limiterait les dégâts. Je ne pense pas. Mais de toute façon, c'est difficile à affirmer. Je ne vais pas. J'avais une question de droit canon. Voilà. Qui m'est arrivée, qui est un peu plus simple. Non, il n'est pas simple, mais. Alors, au sujet de la discipline et de la d'application du droit pénal canonique, les pouvoirs propres de l'évêque ainsi que la répartition des compétences en cette matière entre l'Église, les Églises nationales et Rome. Alors, une fois de plus, les Églises nationales, elles n'existent pas en droit canon. L'Église de France est en train d'innover, puisqu'on a installé la semaine dernière un tribunal pénal canonique. C'est une innovation totale. Donc, une fois de plus, on fait. Alors, au niveau du droit, pour ce qui est, entre guillemets, des petites affaires, l'évêque et seul juge en son diocèse. Bon, il y a un énorme problème au niveau de l'épiscopat, c'est que finalement, il concentre tous les pouvoirs, pouvoirs de sanctification, de gouvernement, d'enseignement et même juridique. C'est un énorme problème théologique. On est arrivé là en voulant bien faire, mais Il y a ce qui existe sur le plan canonique, c'est ce qu'on appelle des provinces ecclésiastiques. Alors en France, il doit y avoir 7 ou 8 provinces, je ne peux pas vous dire exactement combien, en gros, une dans le sud-ouest, une dans le sud-est, l'Île-de-France en fait une. Il y a, et au niveau des provinces ecclésiastiques, il y a un archevêque et des évêques autour de lui. Ça, c'est la règle générale. Après, ce n'est pas toujours vrai. Dans le sud-est, il y a plus d'archevêques alors pour une seule province. Donc, puisqu'il y a un archevêque à Aix, un archevêque à Marseille, un archevêque à Monaco, et ils sont tous dans la même province. Bon. Mais donc, normalement, l'archevêque est, entre guillemets, le supérieur de la province ecclésiastique, et il y a une forme de rappel du tribunal qui peut se faire au niveau de la province. Alors, les tribunaux ecclésiastiques jugent beaucoup de questions de nullité de mariage. C'est donc en principe traité au niveau du diocèse, celui où a été célébré le mariage qui est attaqué en nullité, et il peut y avoir un appel au niveau de la province. Avec, donc, le droit canon prévoit que certains, alors, il n'y a pas que les nullités de mariage, hein, que suivant l'importance du problème, du délit, ça sera traité à Rome et non pas au niveau du diocèse ou de la province ecclésiastique. Alors, c'est listé hein, dans le droit canon. Et alors, c'est pour ça que vous savez les histoires d'Henri VIII avec le pape, les questions de nullité de mariage ne sont pas traitées localement pour les gens qui ont une responsabilité publique évidente et importante. C'est traité à Rome, ça date typiquement de l'époque d'Henri VIII, où la question était trop importante pour être réglée par un évêque local qui cohabitait avec le roi. Donc voilà un peu pour la répartition des compétences, et on est en pleine innovation, puisque c'est un essai qui a été lancé la semaine dernière de la Conférence épiscopale française d'avoir son propre tribunal pour élargir un peu et ne pas être uniquement dans le petit diocèse concerné, ce qui, on l'a vu, n'a pas fonctionné.
Et bénéficier des compétences de spécialistes.
Alors, du coup, c'est ce qu'ils ont mis. Au niveau des tribunaux ecclésiastiques, à part le fait que c'est l'évêque qui est le président du tribunal de son diocèse, il n'y a pas écrit dans le droit canon que c'est forcément un clerc. Ce qui, je peux vous dire, me pose des fois des problèmes, parce que je sais que, je corrige des copies d'ecclésiologie pour l'Institut catholique, et que des fois j'ai des copies très mauvaises, mais que je sais qu'il y a des gens qui sont inscrits en droit canon et que je risque de leur donner la possibilité de devenir juge ecclésiastique. Si je me dis que c'est pas très important, de leur mettre une note éliminatoire. Alors là, j'ai regroupé des questions qui n'avaient rien à voir, simplement les unes avec les autres, hein, simplement parce qu'il y avait des nous. Que pouvons-nous faire? Comment être pluraliste? Comment vivre cette tension? Comment vivre en chrétien? Comment vivre sa vie? J'avais envie de répondre à cette question, que ce n'était pas à moi d'y répondre. Que le projet du CIF était de vous avoir donner des méthodes, des moyens, de savoir comment on travaille, comment on discute, mais que c'est certainement pas dans une salle de cours. C'est une construction qui doit se faire à la fois pour soi et à la fois dans des lieux d'église qui sont les siens, avec en maintenant cette tension eschatologique, en ayant des moyens de le faire, en s'appuyant sur l'écriture, en ayant le plus possible un travail au niveau d'un petit groupe pour respecter, pour se rappeler que l'Esprit-Saint utilise ses camarades pour nous parler, mais ça ne peut pas être dans le genre littéraire d'un cours qu'on aborde cette question.
C'est dommage,
mais oui. Je vous dis par où on prend le problème, mais ce n'est pas à moi de vous donner des réponses, quoi.
Si vous permettez, moi, ça me paraît évident que vous ne pouvez pas répondre, mais la question que je me pose, c'est à tous, à vous aussi. Et, OK, imaginons que j'ai appris beaucoup de choses aussi sur l'ecclésiologie grâce à vous.
Oui.
Ce qui est certain. Bon, maintenant, moi, par exemple, j'aime bien trouver un espace de discernement commun ou de dialogue pour pouvoir discuter avec des gens en tant que laïc. Et j'ai un peu du mal à savoir quels sont ces espaces dans l'Église, parce que, disons, au niveau de la paroisse, je ne vois pas trop. Donc, comment vous voyez ça? Parce que vous voyez, si nous, on est formés, ben alors, si on continue à se former, si on est intéressé par ça, ben à un moment donné, je pense qu'on a envie quand même de partager ou échanger là-dessus. Mais il faut des espaces pour ça, ou des lieux. Parce qu'on ne peut pas être éternellement étudiant. Enfin, on peut, mais... 10 années de CIF et toujours étudiant, non. Donc, est-ce que vous pouvez nous indiquer quels sont les espaces où on peut avoir un échange sur ces sujets-là?
Je ne vais pas vous répondre maintenant. Simplement, à la fin de l'année, on a pris l'habitude d'avoir une rencontre avec les étudiants qui sortent et de leur proposer une liste de ressources pour continuer. Voilà. Donc, mon agenda doit me dire quel est le jour où nous avons proclamé ça, mais on en profite. On espère que cette année, on pourra le faire en présentiel. On en profite pour faire une petite rencontre avec la promotion qui sort et quelques enseignants. Et on essaye, donc chaque année on la renouvelle. Bon, bien sûr, on ne la renouvelle pas, on ne dit pas une année vous allez à tel endroit, une année telle autre, mais on essaye de l'actualiser, de vous fournir une liste de ressources pour continuer à vivre. Donc, je la connais pas par cœur.
Mais la liste des ressources pour se former ou la liste des liens où on peut avoir un dialogue, parce que c'est différent.
Les deux.
Les deux. Ouais, ben, voilà, les j'attends deux. Impatiemment la fin de l'année, alors.
Voilà. Alors, après, on n'est pas exhaustif. Hein. On a d'abord le fait qu'on a nos sensibilités et qu'on dit « Ah non, ceux-là, on ne va pas les proposer. » Et puis, le fait qu'on ne connaît pas tout, hein. Donc, voilà. Voilà.
Ça donne envie d'attendre, en tout cas.
Oui, mais vous avez encore tout le cours sur les sacrements avec Frère Isaïa, qui est superbe. Et puis, vous avez le cours, j'aime pas le titre moral, mais c'est quand même comme ça qu'on va l'appeler, où vous aurez des éléments de discernement et la lecture de quelques grands textes de l'Église récents. Alors, j'essaye de voir qu'est-ce que je vous mets comme question. Alors, j'ai ici une question sur la place des conciles pour faire évoluer les choses. Alors, je vais partager l'écran pour mettre la question, hein. Ce n'est pas de moi. Hein. Vous avez les trois premiers alinéas, c'est la même personne. D'accord. Et j'ai sauté une ligne et parce que j'ai trouvé que c'était une réponse à la question. Donc, ce trimestre m'a permis de mieux comprendre un concile Vatican I centré sur Rome, l'infaillibilité pontificale, un concile Vatican II sur le niveau évêque, avec même un niveau de la conférence des évêques de France qui reste flou. Faut-il un Vatican III pour travailler au niveau paroisse et place des laïcs et un Vatican IV pour réaliser qu'il n'y a pas que des hommes et que les divorcés, entre autres, ont aussi une âme. Et la même personne peut dire, voir une séance de travail des évêques à Lourdes en 2022 avec que des évêques, que des hommes, tous de noir vêtus avec une coiffe rouge sur la tête, devient complètement inaudible. Depuis 20 siècles, l'Église a eu à peu près un concile par siècle. Mais en fait, ça n'a pas été régulier. Il y a eu 20 conciles en 20 siècles, en gros. Mais c'est peut-être 19, c'est peut-être 21, je ne sais pas exactement. Il y a eu des périodes où il y en a eu beaucoup et qui n'ont pas abordé qui n'ont pas su gérer les questions et les problèmes. Ça a été le cas au Moyen-Âge où on sentait que l'Église allait très mal. Ça s'est fini d'ailleurs dans la réforme protestante avec Luther parce que des questions très graves n'arrivaient pas à être abordées de façon satisfaisante dans l'Église. Enfin, c'est une des raisons de la réforme protestante. Donc, le concile, ce n'est pas, entre guillemets, magique. Bon. D'autre part, quand on parle concile, à 30, ils ont travaillé en concile sur des questions extrêmement importantes qui ont engagé l'Église. Pour plusieurs siècles, puisqu'en fait, 30, c'est dans les années 1560, et vous n'avez plus de concile après jusqu'en 1870, hein, donc vous restez 300 ans sans concile. Le concile de 30, donc, engage. Ils étaient, allez, les sessions où ils étaient nombreux, ils étaient 60, 70, suivant les sessions, suivant les jours, ils étaient plus ou moins nombreux. À Vatican II, ils étaient près de 3000. Le nombre d'évêques a doublé depuis. Il y a un moment où ça ne fonctionne plus. Hein. L'assemblée plénière à 3500, c'est beaucoup, beaucoup trop lourd. C'est un espèce de... Pour que ça fonctionne, il faut être dans des espaces d'échange réalistes qui peuvent varier. Et donc, je pense que ça fait partie que le synode des évêques avait été créé par Paul VI justement parce que le concile, c'était trop lourd. et que d'autre part, si François nous met ce synode sur la synodalité, ben c'est qu'il veut que l'Église invente des façons, d'autres façons de faire, sans que je sache quelles sont les façons de faire qu'elle va pouvoir inventer. Hein. Voilà. Donc, je n'ai pas... je pense qu'effectivement, un système de concile avec que des hommes en noir avec un petit calot rouge, ça risque de plus très bien fonctionner. Mais ça va changer. Je vois mal l'Église avoir ce type de concile dans le prochain siècle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelque chose, mais sous cette forme-là, j'y crois guère. Après, l'Esprit Saint souffle où il veut. J'ai ici, est-ce que vous voyez la photo là? Oui, l'écran, c'est bon? Alors, c'est là, il y a trois paragraphes, mais ça vient de la même personne. Les protestants vivent et acceptent, semble-t-il, de vivre dans la diversité sans que cela les empêche d'avancer dans la foi. Au contraire des catholiques, très centrés sur l'unicité de la pensée. Après, mais pour reprendre la formule des conciles dans le passé, est anathème celui qui dit que, et cela semble rester très présent aujourd'hui, les synodes locaux ne doivent pas parler de doctrine, voir l'exemple récent en Allemagne. On vit dans un monde de plus en plus en réseau, décentralisé. Comment tenir une telle position dans le temps? Faut-il encore une nouvelle cassure dans notre Église, cette fois-ci entre traditionalistes et réformistes, avant d'évoluer ou accepter de vivre la diversité pour de vrai? Alors, il y a beaucoup de choses dans cette question. Dans le groupe de cet après-midi, il y a des gens qui m'ont fait remarquer que la vie dans la diversité du protestantisme était peut-être d'idéal et qu'au quotidien, c'était peut-être pas si vrai que ça. Ça c'est, je n'en sais rien. Alors, je voudrais faire une remarque sur la question des anathèmes. Les anathèmes ont été extrêmement utilisés pendant les conciles du Moyen-Âge et surtout à Trente. Quand Jean XXIII a convoqué le concile Vatican II, il a donné cette consigne. Jean XXIII était un homme profondément bon, pas du tout naïf sur la réalité du mal, mais... pétri de bonté et d'espérance. C'est pas pour rien qu'on l'a appelé le bon pape Jean. En plus, il avait un physique de moine de boîte de camembert, donc ça lui donnait cette impression de bonhomie. Et il avait donné cette consigne au concile qui était qu'il ne voulait pas d'anathème. Il a laissé le concile travailler, trouver sa méthode, mais il y avait une règle. Après, je voudrais revenir sur l'utilisation des anathèmes. Au concile de Trente, les questions étaient comme chez saint Thomas avant, suivant l'esprit de cette époque, les questions étaient très, très pointues. Ce n'était pas une vision globale, mais c'est une question extrêmement pointue. Et on répondait, qui était formulé de la façon suivante, si quelqu'un pense que, qu'il soit anathème, que une proposition A, qu'il soit anathème. Et trop souvent, Donc, imaginons que le concile ait dit, si quelqu'un pense que A, la proposition A, qu'il soit anathème. Trop souvent par la suite, ceci a été compris comme la vérité avec un grand V, c'est non A. Alors que ce n'était pas ça qui était dit. Et ça a énormément rigidifié la doctrine à l'époque moderne dans l'Église post-tridentine. Quand les pères ont dit « on ne peut pas accepter cette proposition », il a été reçu « c'est la proposition contraire qui est la vérité ». Est-ce que vous voyez la subtilité de ça? Donc, ça nous a entraînés dans une doctrine, un catéchisme, des règles de l'Église extrêmement rigidifiées, certainement beaucoup plus que ce que les pères de Trente avaient souhaité faire. La question suivante, le même paragraphe. Les synodes locaux ne doivent pas parler de doctrine, voir l'exemple récent en Allemagne. Je connais très mal la question du synode, ce qui n'est pas un synode, c'est un chemin synodal, hein, déjà. Mais ça, c'est autre chose. Je ne connais pas l'ordre du jour. Je ne suis pas sûre qu'ils parlaient de doctrine. Il me semble qu'ils ont parlé de ce qu'on appellerait, et qu'ils ont employé les termes de la société civile, de gouvernance, ils l'ont dit en allemand et je ne connais pas l'allemand, de l'Église. Finalement, ils n'ont pas été dans de la doctrine, ils ont été dans de l'ecclésiologie pratique et du droit canonique. Donc, je ne sais pas si on peut parler de doctrine. Il est exact que les synodes diocésains qui ont été... Le chemin synodal allemand n'est pas un synode diocésain, je vous rappelle. C'est un chemin synodal allemand. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le droit canon. C'était subtil, justement, de faire ça. Est-ce qu'il va porter du fruit? J'en sais rien. Est-ce que si ça foire, ce sera uniquement la faute du refus de Rome? Je n'en sais rien non plus. Le fait que ça foire est assez vraisemblable.
Ça paraît mal parti.
Ça passerait mal parti. Mais j'ai tendance à penser, mais c'est vu de l'extérieur, que c'est à tort partagé. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vu de l'extérieur et je connais très très mal ce sujet. Par contre, il est exact qu'on vit dans un monde qui fonctionne en réseau, qui se décentralise, mais qu'il va falloir apprendre que l'Église est très mal armée pour ça, mais s'il y a quelque chose qui est bien partagé au niveau global, c'est bien ça. La génération qui est en responsabilité actuellement est une génération qui a été formée autant de ce qu'on a appelé la modernité solide. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'était. C'est les philosophes qui parlent d'une première modernité qui est une modernité solide et d'une modernité tardive, d'une hypermodernité, d'une postmodernité qui serait beaucoup plus que certains philosophes qualifient de liquide. C'est-à-dire que la première modernité, c'est une modernité d'usine, c'est une modernité de production, c'est une modernité de hiérarchie qui est descendante, c'est une modernité qui fabrique des voitures, qui fabrique des avions, qui sait envoyer des hommes sur la Lune. Et alors qu'on est passé quelque part entre 75 et 90, dans un monde beaucoup plus fluide, en réseau, j'ai toujours l'image, la modernité solide. Chez mes grands-parents, il y avait un téléphone qui était fixé dans le mur, dans l'entrée. Mes grands-parents ont eu toute leur vie le même numéro de téléphone. Je peux vous le dire, c'était le 62-26-04. Je l'ai encore en tête. On tournait là avec un cadran électromécanique. Il n'y avait qu'un seul téléphone pour toute la famille. Mon grand-père exerçait une profession libérale qui était le personnel et le professionnel et qui était fixé au mur et relié par un des fils. C'était la modernité solide. Il y avait de la solidité et il y avait aussi de la solidité dans le fait que mes grands-parents ont vécu 50 ans dans cet appartement, que c'était le même ménage qui n'a pas changé, etc. Aujourd'hui, nous avons ces engins-là dans nos poches, qui sont des engins personnels. Ma petite fille de 10 ans en a un pour elle toute seule, parce qu'il y a un moment où on ne peut pas la laisser circuler en bus sans ça aujourd'hui, alors qu'il y a 50 ans, on laissait circuler un enfant en bus de 10 ans sans téléphone dans la poche. De toute façon, ça n'existait pas. Et il est relié par des choses fluides. Il fonctionne en réseau, alors que le téléphone de mes grands-parents ont passé par un standard qui retournait à un autre endroit. Là, il y a plein de chemins, un réseau, etc. Et du coup, le monde des startups, des licornes, ce que vous voudrez, de ce qu'on appelle la tech, c'est un monde où, en fait, à part des leaders un peu gourous, on ne sait plus qui fait quoi, il n'y a pas des organigrammes clairs, etc. On a été formés, moi, etc., peut-être moins les plus jeunes d'entre nous, mais on a été formé au paradigme de l'ancien monde. Et dans l'Église, les gens ont été formés au paradigme de l'ancien monde. Combien de temps il faudra pour autre chose ? Ben c'est là que je reviens à ma théologie positive du début du christianisme. Quand les théologiens, les pasteurs, les évêques apprendront des chrétiens au sens large, comment fonctionne le monde, et à interroger les chrétiens sur les questions des signes des temps, on pourra avoir une Église qui risque de mieux fonctionner pour le 21e siècle. Hein. C'est pour ça que François dit que la synodalité, c'est ce qui est la mission de l'Église au XXIe siècle, au troisième millénaire. Et cette personne pose la question du est-ce que ce sera au prix de la cassure entre traditionnalistes et réformistes. Je ne sais pas. Beaucoup de grands conciles ont été suivis de fractures. D'autres ont suivi la fracture, puisque c'est le cas du Concile de Trente. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus comment... je ne peux pas vous dire. Dans l'espérance, je me dis qu'on va arriver à accepter de vivre la diversité pour de vrai. Mais des fois, c'est de l'ordre de l'espérance plus que de la... du pragmatisme.
Oui, ce que vous dites de l'Église est vrai pour la société en général.
Ben, l'Église, elle n'est pas hors sol. Hein. Ce problème d'un centralisme descendant, on le voit au niveau de notre État, on le voit au niveau...
Bien sûr.
Hein, donc,
y compris dans les démocraties.
Y compris dans les démocraties. Les gens qui travaillent dans l'éducation nationale reçoivent leurs directives d'un ministère hyper centralisé. Et on a du mal à imaginer un autre fonctionnement.
C'est la question.
C'est une question importante. Hein. Donc.
Mais pour qu'il y ait un autre fonctionnement, il faut qu'il y ait des laïcs qui sont au niveau de maintenir le dialogue. Et on revient au CIF, c'est-à-dire, on peut pas faire synodalité sans avoir de base.
C'est pour ça que, vu de là où je suis, je pense qu'il y a... un travail qui se fait justement pour ça. Et non, je passe mes samedis et mes dimanches à aller animer des formations dans des diocèses, dans plein de diocèses et paroisses de toute la France. Il y a une soif de Roselyne Dupont-Rock passe ses samedis et ses dimanches à faire des formations bibliques. Il y a une réelle soif de formation et une réelle proposition. Je ne suis pas... là-dessus, je pense que l'Église de France, peut toujours faire mieux, hein, mais que les propositions de formation qui sont très diverses, y compris, il y en a certainement certaines qui sont de niveau plus ou moins médiocre, vu de moi, hein. Mais il y en a beaucoup et il y a beaucoup de diocèses qui les encouragent.
Il faut encore que les laïcs participent parce que, en fait, moi, dans mon expérience, petite expérience personnelle, je vois plein de gens qui demandent monts et merveilles à tout le monde, mais la question, ce n'est pas tellement ce que je demande, c'est ce que je peux apporter, mais pour apporter, il faut que je sois capable de ça. Donc, y a une attitude aussi chez les laïcs, moi je constate ça, qui demande tout à l'Église, qui est un corps étranger, je ne sais pas qui, qui doit nous dire ce qu'il faut faire du matin au soir. Et plutôt, la solution, c'est qu'on se prenne un peu en charge et qu'on crée des conditions de discernement commun avec les clercs. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, mais soyons un peu adultes.
Je pense que c'est exactement le chemin dans lequel François veut engager l'Église avec ce synode sur la synodalité. Vous dire que ça fonctionnera dans les faits, je ne vous promets rien, mais je pense que c'est son chemin, c'est le chemin qu'il souhaite pour l'Église. Et je dirais que localement, il y a des endroits où ça ne se passe pas si mal, et puis qu'il y a des endroits où ça ne fonctionne pas bien. Voilà.
Mais c'est dans la société, c'est pareil.
Absolument.
Et tout le monde n'a pas envie de participer à des choses compliquées, mais il faut quand même qu'il y a des laïcs qui approfondissent l'intelligence de la foi. Donc ça c'est.
Oui.
Moi c'était la principale motivation, c'est que. Et face à des personnes qui ont cette année de théologie, avec tout le respect que je leur dois, j'ai envie quand même de pouvoir dialoguer. et pas que prendre des notes, parce que ça, on ne va pas y arriver.
Ben, j'espère qu'on vous a donné les bases pour le faire.
Est-ce que je peux vous poser une question ?
Bien sûr.
souvent dans vos, enfin souvent, quelquefois dans vos interventions, vous parlez du malin.
Oui.
Et comment s'appelle Roselyne Dupont-Roch, elle balaye le, elle balaye la question, elle dit malin, non.
Alors, la question finalement qui est à poser, c'est on est obligé de constater que le mal ronge le monde. Sinon, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir sur la terre pour nous sauver. Et c'est une constatation que l'humanité fait depuis le début. Elle fait cette constatation dans ce chapitre 3 de la Genèse qui est magnifique, où elle donne une explication dans cette histoire de femme qui mange une pomme donnée par le serpent pour comprendre que la création est bonne, mais qu'il y a quelque chose qui cloche quand même. Comment nommer cela? C'est toujours extrêmement difficile. C'est vrai que lui donner un nom pour ne... On est toujours, c'est toujours difficile de parler en périphrase, etc. À la fois, on ne peut pas nier l'existence du mal. On ne peut pas nier qu'il y a un mal avec lequel on est complice, mais ce n'est pas nous qui sommes foncièrement mauvais. Ma théologie ne me dit pas que je suis née mauvaise. Ma théologie me dit que j'ai été créée à l'histoire, à l'image de Dieu, et que y a quand même quelque chose qui cloche, que j'ai été créée aimée par Dieu. Donc, c'est un mot pour désigner ce mystère, je dirais. Est-ce que c'est le bon mot? Je n'en sais rien. Mais c'est une prise de conscience de ce mystère, pour moi. Est-ce que ça vous éclaire un peu comme réponse?
Moi, je me dis que l'homme est suffisamment, peut-être suffisamment pervers tout seul sans avoir besoin de quelqu'un derrière.
Certains hommes. C'est un peu ce que dit Paul. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Cette conscience de ça. Ça, c'est du Paul. Et du Paul, du premier Paul, suivant Roselyne Dupont-Roch. Il est 22h. On peut continuer encore, bien sûr, mais normalement, donc, nous avons fini ce parcours. On va vous souhaiter une bonne fin d'avant, une bonne fête de Noël, bien accueillir le Sauveur qui arrive à la rentrée donc, scolaire, à la rentrée de janvier. Vous retrouverez Frère Isaïa qui va vous parler de sacrements, qui est superbe, qui est très sympa. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon parcours avec lui. Donc, on peut se croiser par hasard aussi. En principe, on devrait se voir le jour de la sortie, entre guillemets, le dernier jour. Si certains, vous ne serez sans doute pas là parce que là, certains n'ont, enfin, on essaie de le faire un peu en présentiel, mais pour une heure d'apéro, peut-être que tous ne pourraient pas venir à Paris. On vous mettra un...
Ça dépend de l'apéro.
Ah, ça dépend de l'apéro. Je crains qu'on reste dans l'apéro cato qui reste modeste. Ah ben, hein.
Non, mais c'est pour vous voir.
Voilà.
Mais Christophe, tu nous organises un after.
Voilà.
Je voulais vous signaler aussi, c'est la bonne nouvelle, c'est que, en tout cas pour moi, c'est que j'ai renoncé en demi-finale de la Coupe du Monde pour suivre les
cours. Je vois, moi qui suis derrière, dans mon ordinateur, il y a une petite lucarne qui se met là. Effectivement, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Voilà.
Bon. Vous pouvez nous dire le score ?
3-0. Argentine, 3-0.
3-0.
Voilà, j'ai vu Messi crucifier la Croatie.
Messi est de retour.
Messi est de retour. Voilà. Bon,
merci.
Je vous dis, c'est moi qui vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup.
Bonne suite à vous.
Et bon Noël à tous.
Bon Noël à tous.
Merci beaucoup. Merci.
Au revoir. Et joyeux Noël à tous.
Joyeux Noël à tous.
Merci beaucoup.